bulletin de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou par Catherine. Et aujourd'hui, puisque Hervé a choisi de vagabonder dans les ailleurs, aujourd'hui c'est Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, que vas-tu nous lire aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas choisi une nouvelle et pas vraiment un roman. Il ne reste pas grand-chose.
À savoir ?
Eh bien, c'est plutôt un récit autobiographique.
D'accord. Alors, et pourquoi ce choix, alors ?
Alors, il s'agit d'un livre qui s'appelle « Travaux » de Georges Navelle.
Et tu l'as choisi pour ?
Eh bien, c'était en écho au Rendez-vous de l'Histoire qui a pour thème cette année...
Le travail.
Bravo.
Voilà.
Alors, Georges Navelle est né en 1904 d'une famille d'ouvriers paysans lorrains et il travaille dès 12 ans dans les ateliers d'usine. Alors, il est d'origine paysanne, son père était manœuvre dans les hauts fourneaux et puis sa mère travaillait au champ, au bois, enfin, tout en élevant, un détail, ses 13 enfants.
Oui, ouais, elle n'avait que ça à faire.
Elle en a même eu 18, elle en a perdu 5.
Ah oui.
C'est quand même sympathique.
C'était une autre époque.
Voilà. Et Georges est le petit dernier de la fratrie.
D'accord.
Voilà. Donc, il va faire à peu près tous les métiers. Il a été manœuvre, ajusteur, terrassier, ouvrier agricole, saunier, coupeur de lavande, cueilleur de pêche, de cerises, apiculteur, même correcteur d'imprimerie à Paris. Enfin bref, c'est un autodidacte et rien ne le prédisposait à l'écriture.
Tu as dit saunier ?
Saunier, celui qui ramasse le sel.
Oui, ben, il était lorrain.
Eh bien, oui. Eh ben, les pêches et les cerises aussi, quand même. Hein. Il fallait un peu voyager.
Mais j'imaginais pas beaucoup de saunier dans le...
Non, mais justement, il part dans le sud de la France. Il a même été en Algérie.
Ah oui, d'accord.
Il a quand même bougé. Il a quand même bougé. Voilà. Donc, il a puisé dans cette existence aux mille facettes. Et grâce à cette grâce, ou voilà, par le fait de cette expérience très, très riche, eh bien, il a publié 4 récits au cours de sa vie qui a, on peut dire, traversé tout le XXe siècle, puisque né en 1904 et mort en 1993.
Ah oui, c'est...
Ouais, vraiment, le XXe, il l'a fait, quoi. Mmh. Alors, dans l'édition que j'ai entre les mains, il y a une... c'est l'édition même d'origine, c'était comme ça. Il y a une préface de Paul Géraldi. Et Paul Géraldi dit de lui, en fait, que c'est que ces choses de son métier, de ses métiers, car il y en a eu plusieurs, Navelle les vit et les éprouve avec une intensité grande et les exprime avec un surprenant bonheur. C'est que Navelle est un poète. Donc voilà, donc il y a une sorte de... Tout le réel, parfois assez dur, eh bien, il est... transfiguré par cette quête poétique. Bref,
d'accord.
Il a une langue, ce monsieur.
J'étais en train de penser qu'il y a un écho aussi avec le dernier Robles, ou celui de l'an dernier.
Alors, attends, le...
Avec... j'ai oublié son nom.
L'homme... Ah bah, dis donc.
L'homme qui raconte sa vie dans les usines en Bretagne.
Ah oui, oui, exact. Exact.
Ah, vas-tu retrouver le nom de l'auteur ?
Oui, en plus, il est décédé.
Exact, oui.
Voilà,
il est décédé.
C'est terrible. Il ne faudrait pas que ce soit des vieux qui fassent de la radio. Hein. Mon Dieu,
vrai.
Tu vois sa
c'est
tête,
terrible.
Il était tellement, tellement adorable en plus. Mais oui, exactement. Lui, il a décrit son expérience et savait cette dimension poétique également. Oui. Voilà.
Très bien. Eh bien, on y va ?
Eh bien, on va essayer l'aventure. Médière. Ma mère m'a eu à 47 ans. Je l'ai toujours connue comme une mère, comme une femme dont la beauté ne compte pas, mais seulement la bonté, la chaleur, la main à tartine. J'étais son 13e. Je l'ai toujours vue comme si elle avait eu 60 ans. Mon père était fils de vigneron, des coteaux de Pagny-sur-Moselle. Orphelin de bonheur, à 10 ans, il travaillait déjà dans les grosses fermes des plaines. Dure vie pour un gosse. À 18 ans, il s'était engagé, le meilleur temps de sa vie, ses 50 troupiers en Algérie. Il avait appris à lire pendant son service. Ça lui permettait de lire de temps en temps le journal en épelant syllabe par syllabe, comme les enfants. Ma mère ne savait ni B ni A. Tous deux étaient d'origine paysanne, mais nous n'avions plus de terre à nous. Mon père, en sortant de l'armée, était devenu manœuvre aux fonderies de Pont-à-Mousson. La plupart des gens du village de Médière où nous habitions travaillaient eux aussi à l'usine. Certains avaient vu naître l'usine qui continuait de se développer sous leurs yeux. Elle avait attiré à elle les fils de paysans sans terre, les vignerons ruinés par le phylloxéra. L'usine qui prospérait ne leur assurait pas de quoi vivre, malgré leurs journées de 10 heures et même 12 de travail. Ils étaient entrés une fois pour toutes dans le monde des prolétaires de la grande industrie, en restant pour un quart paysans, puisqu'il leur fallait, pour vivre un peu plus à l'aise, cultiver la terre le dimanche. L'apport en légumes des champs qu'ils prenaient en location leur était nécessaire. Ma mère s'occupait dans les lopins que nous avions loués. Durant des années jusqu'à la guerre de 14, chaque jour, à la sortie de l'école, à 11 heures, ma mère venait me donner le panier du déjeuner du père. Je lui portais à l'usine. Avant l'usine, au crassier. Le crassier, c'était une haute pyramide qui grossissait de toutes les scories qu'apportait le coucou, une petite locomotive tirant des wagonnets. Mêlée à la poussière et aux blocs de crasse, la fonte était récupérée par le lavage des scories, pelle par pelle, dans un courant d'eau. Je trouvais là mon père avec une demi-douzaine d'hommes que je connaissais par leur nom. Je mangeais près de lui avec l'équipe de laveurs assis sur deux briques, le dos appuyé à de gros tuyaux garés là. En hiver, l'équipe mangeait dans une petite baraque, un cubilot alimenté aux coques la chauffait en répandant une grosse odeur d'usine. Je le trouvais toujours calme, rarement gai, souvent d'humeur chagrine. Il avait plus de 60 ans. Il allait vers sa 40e année de présence à l'usine. On lui avait déjà remis la médaille de 30 ans de bon service. Quand il n'en pourrait plus, qu'il s'arrêterait de travailler, l'usine lui servirait une pension 10 sous par jour en ce temps. Juste la valeur d'un litre de vin ou d'un paquet de tabac. On l'avait félicité bien souvent d'être un père de famille nombreuse, d'être un ouvrier fidèle. Il avait été un bon soldat. Il s'étonnait qu'on l'ait mis dans un poste aussi dur, à l'intempérie, comme il disait, en récompense de sa vie de brave homme. Les beaux messieurs de l'usine et de la République lui paraissaient manquer d'honnêteté des actes au discours. Quelquefois, je ne trouvais pas mon père à son poste habituel. Un compagnon me disait « Il est au Carnot ». Les quartiers de l'usine portaient généralement des noms de colonies. Il y en avait un qu'on appelait le Tonkin. La chaleur de la fonte y tapait aussi dur que le soleil en Indochine. Je traversais des petites voies en évitant les wagonnets de coques et de minerais tirés par des chevaux, d'autres trains de fonte en fusion tirés par des coucous. Je longeais l'énorme machinerie des gazogènes, bruyantes, chuintantes. L'usine ne me faisait pas peur. Quand j'arrivais au four Carnot, j'étais devant une bouche d'égout. Un compagnon de mon père tirait sur une corde pour amener du fond des grands seaux de boue verte à odeur d'asphyxie. Il criait pour que mon père l'entendît en bas. « Père Navel, c'est bientôt la soupe, ton ptio est là !» Mon père ne remontait que quand, très haut, la sirène que les ouvriers appelaient le gueulard avait crié lugubrement. Il sortait, boueux, pâle de son trou. D'autres compagnons le suivaient, pareil. Il mangeait sans appétit, respirant fort et presque avec colère. À 4 heures, quand je sortais de l'école, en revoyant ma mère, je lui disais « Le père travaille au Carnot ». Nous étions tristes, oppressés d'inquiétude. Si à 7 heures il n'était pas rentré, nous partions à sa rencontre, ma mère, ma jeune sœur et moi, tous les trois au devant du malheur. Où le père serait mort, il y a eu des cas d'asphyxie au Carnot. Où il aurait bu, quand il sortait de là-dedans, une chopine de gros bleu lui tournait la tête. De mon propre gré, j'entrais à l'atelier où il travaillait. L'école libre où ma mère m'avait conduit ne m'avait jamais plu. Les leçons de catéchisme et d'histoire sainte faisaient surcharge aux autres matières. Je passais trop d'heures enfermée. En entrant dans un atelier, j'apprenais plus vite la vie. René, c'est son frère, décabossait au maillet des casques qui venaient du front. Des femmes dégrafaient les coiffes de cuir pour les débarrasser de la sueur et du sang. Après un coup de peinture, bleu horizon, ils étaient neufs pour un retour à Verdun. J'étais à l'étamage des bidons. C'était aussi du matériel récupéré après usage. Le local noir puait l'acide. J'étais distrait par les belles couleurs du bain d'étain, Les tameurs me passaient les coquilles, je les essuyais dans un bac de sciure. Je n'étais pas encore mûre pour la rudesse, la grossièreté des adultes. La vie à l'atelier pour toujours commençait à me faire peur. Je me demandais si c'est loin la mort et si on est forcé de vivre jusqu'au bout. C'était l'hiver, les rues étaient encombrées de tas de neige qu'on ne pouvait plus enlever. Gel, ordure et neige, les gens prenaient un air plus misérable. Le matin, il faisait noir. C'était mieux. On ne voyait que des lumières, la laideur des petites rues vagues. C'était à midi le plus attristant. Une nouvelle race de gens était apparue, la race verte des ouvriers et ouvrières de la mélinite. Vraiment, la vie des adultes commençait à m'inquiéter. J'interrogeais René, je songeais aux risques d'accident dans tous les métiers, aux chutes des maçons de leur échafaudage, des charpentiers, aux scieries où presque tous les ouvriers que j'avais vus avaient les mains mutilées. Je demandais à René, mais quel est le meilleur métier ? C'est d'être rentier, me répondit-il. C'était peu de temps avant l'armistice, en 18. Pendant l'été, au bord d'un canal du Rhône, j'avais travaillé avec les maçons. Ma mère me préparait mon repas dans une musette, je partais tôt pour revenir à la nuit. Écrasée de fatigue, je dormais tout le long de mon parcours. Le matin, le soir, à midi, à l'ombre, dès que j'avais mangé. Dès que je lâchais la pelle, j'étais transformée en crocodile sur son banc de sable. J'aurais dormi sur un tas de cailloux. Le soleil tapait dur. Je n'étais éveillée que pendant mes 11 heures de chantier. Je me bronzais, je me sentais forcir avec contentement. J'avais insisté et un peu forcé le vieux chef maçon à m'admettre sur le chantier. Je tenais le coup, mais juste sur la limite. Je gagnais dans le bâtiment autant que mon père qui remuait de l'orge dans une brasserie. Je préparais le béton pour le monter saut à saut sur l'échelle. Les muscles durcissaient, mais l'âme restait trop tendre aux injures. Quand je lui avais pas passé assez vite la martelette, le morceau de planche ou le serre-joint qu'il demandait, mon maçon m'engueulait, sans colère mais avec de sales noms. Quand je râlais en le menaçant de faire venir mon frère pour le corriger, il était surpris. Un jeune manœuvre de 2 ans plus âgé que moi, fort pour ses 16 ans, me bousculait, me renversait dans le sable. À terre, je me défendais avec les pieds. Il se prouvait trop souvent sa force. Un jour, excédé du maçon et du manœuvre, en pleurant, je quittais le chantier. J'étais entrée dans un atelier en grattant mon livret de travail pour me donner 15 ans. On m'avait admis. J'ai barbé à l'étau des pièces de fonderie pour usage de guerre. À l'étau, me servant des limes, je me croyais en train d'apprendre le métier de mécanicien. Encore une fois, j'avais un bon salaire, je ne songeais pas aux difficultés que rencontrent les petits prolétaires qui doivent apprendre un métier. Ma jugeote et le hasard seuls me guidaient. J'étais sans révolte, bien adaptée à la condition ouvrière, heureux de devenir fort ou heureux de devenir habile. Un bon ouvrier me faisait grande impression. Les riches n'étaient qu'un mythe. J'en avais peut-être vu en passant dans les cafés du centre où personne de chez nous n'entrait. Ce que je savais de la vie bourgeoise, je le savais par le cinéma où j'avais vu aussi les 3 mousquetaires. Dans la vraie vie, les patrons en chapeau melon, les petits patrons des ateliers où j'avais travaillé, les contremaîtres en blouse et en faux col m'en imposaient comme des gens de race supérieure. Ils parlaient, ils s'habillaient mieux que nous. Ils savaient tout ce qui s'enseignait dans les écoles. Je leur croyais des parentés avec les ministres, les généraux, les gens instruits qui dirigent le monde. Je croyais le monde réglé honnêtement et vrai tout ce que disent les journaux. J'avais vu passer en 17 des cortèges de grévistes avec placards et drapeaux rouges. Ils voulaient la paix. Je comprenais rien à la lutte des généraux au nom difficile en Russie. Mon frère, Lucien, réformé, était revenu parmi nous. Un soir, je le suivis à une réunion à l'Union des syndicats où une poignée de militants se rencontraient. Ils parlaient bien, ils étaient cordiaux, sans mépris avec le gamin que j'étais. Je compris le sens des grèves de 17, des mutineries de Champagne et de la lutte qui se poursuivait en Russie. Les contremaîtres, les petits patrons perdirent de leur prestige. En rencontrant les militants syndicalistes, je crus aussi que rien n'empêche un homme d'être un homme. La classe cessa de me paraître une limite dans laquelle s'enfermer. Jamais des ouvriers n'avaient fait sur moi aussi vive impression. Lucien répondait à mes questions, mais ses réponses m'enlevaient les illusions où je vivais avant de le suivre. J'avais cru tous les adultes intelligents, même les plus brutes, sachant tous mieux que moi ce qu'ils faisaient dans la vie. Le charbonnier avait sa raison d'être charbonnier, la fille d'être une prostituée, l'ouvrier de travailler, le soldat de se battre. J'avais cru que l'ignorance était le privilège des êtres jeunes et que tous les adultes, même mon père, vivaient dans un monde clair à leurs yeux. Il suffisait d'être assez âgé pour savoir. Ce qui allait mal, c'était la vie. En attendant le progrès, on avait pu faire mieux. Personne n'était responsable. Lucien me fit voir un monde plus noir en présentant la masse des hommes comme une masse de dupes dociles. L'ordre capitaliste, la société bourgeoise organisée en conspiration contre les ouvriers. La guerre n'avait pas d'autre but que de faire réaliser des bénéfices aux marchands de canons. L'armée, que de mater les ouvriers. La presse, que de mentir et de faire durer l'exploitation de l'homme par l'homme. Atelier. Mon père, qui allait atteindre ses 70 ans, travaillait encore, mais près de chez nous, pour éviter l'embarras de prendre un tram ou la fatigue d'un parcours à pied. En passant dans la rue, je le voyais avec une équipe de vieux couleur de rouille. Il déchargeait des tôles, des paquets de tringles de fer. Je le voyais aller et venir dans un grand hangar. Des camions, des voitures à chevaux s'arrêtaient devant le grand portail pour prendre ou pour laisser un chargement. J'avais plus de 15 ans. Il y avait maintenant 3 ans que je faisais n'importe quoi comme manœuvre. J'avais hâte d'apprendre un métier. Mon père me dit « J'ai toujours été manœuvre, tu peux bien l'être aussi. » Ma mère, elle, « Je veux bien, mon petit, si tu gagnes un peu. » En apprenant un métier, il fallait aussi que je gagne ma vie. Un ami de mon frère me fit entrer à l'atelier où il était chef d'équipe. On y retapait de vieux tours qui avaient tourné les obus, du matériel des usines de guerre que l'État liquidait. On travaillait à l'antique, avec des moyens artisanaux, presque sans machine. J'appris à limer droit. Je sus bientôt, à part le balayage de l'atelier et les courses, rendre des services réels. Nuri forgeait ses outils, les pièces à refaire. Je passais du beau temps devant la forge, en faisant tourner le ventilateur. Quand il le fallait, je frappais à la masse. J'observais les mouvements du compagnon qui me dressait. Quand le morceau d'acier était chauffé au rouge cerise, il s'en saisissait avec la pince pour en faire en quelques coups de marteau un burin ou une bédane. Il la trempait à la couleur jaune paille ou gorge de pigeon selon l'usage qu'il en voulait faire. J'étais fière de porter des bleus d'apprenti. Un an passa. L'échec d'une grève générale marqua le déclin du mouvement ouvrier après les remous révolutionnaires d'après-guerre. On était déjà loin des fièvres de 1919. J'avais le cafard. J'étais trop tôt entrée dans la vie consciente. J'avais trop lu, j'étais trop sortie. L'atelier, mal aéré, obscur, était aussi très déprimant. À l'étau, je ruminais des idées noires, des doutes me gagnaient. Je ne parvenais pas à croire possible la transformation de la société bourgeoise en société communiste libertaire. J'avais beau me dire que l'Église avait commencé par une poignée d'apôtres, je restais douloureusement sensible au fait que la propagande anarchiste ne touchait qu'un bien petit nombre d'hommes, à la faiblesse du petit groupe que j'approchais. Je voyais encore de bons vieux jours à la société bourgeoise mourante. Mais plutôt que de vivre résigné, de reproduire l'existence de mon père, je préférais mourir. Maintenant, je savais. L'usine. De retour à Lyon, j'entrais aux usines Berlier de Vénissieux. Après les petits ateliers de mécanique, c'était mon premier contact avec la grande usine. Les grandes usines de construction mécanique, où la machine permet l'emploi d'une foule de manœuvres rapidement dressées, spécialisées, ont toujours besoin de main-d'œuvre professionnelle. Si une masse d'hommes sont devenus des robots du travail de série, une minorité de régleurs, de machines, d'outilleurs doit sans cesse élever son niveau de capacité pour répondre aux exigences du travail moderne. Mon apprentissage dans l'atelier archaïque ne m'avait pas rendu familier l'usage des machines qu'utilisent les ajusteurs. C'était mon côté faible. Mais je trouvais à l'atelier d'outillage où l'on m'avait admis après un essai de bons compagnons disposés à m'aider au besoin. J'étais plus propre au travail purement manuel, plus à l'aise avec la lime ou la scie à métaux que si je devais recourir au travail des machines qui demandent plus d'attention. Elle m'était un peu mystérieuse. Je n'avais pas assez de goût de la mécanique. Je n'étais pas à l'aise dans la partie artisanale. Avec la meilleure volonté, je ne parvenais pas assez à me concentrer sur ma besogne. J'étais trop rêveur. J'aurais dû pouvoir me vider la tête. Mon chef d'équipe était patient, paterne, un peu froid. J'aurais voulu plus de sympathie. L'habileté ne me faisait pas défaut, mais l'attention. Aussi, devant lui, j'étais souvent honteux d'un travail mal exécuté. Pour cesser d'être manœuvre, j'avais choisi au hasard un métier pour lequel je n'avais peut-être pas le fond d'aptitude nécessaire, mais surtout, je n'avais pas suivi la bonne filière. C'était une bonne usine, de construction récente, bien conçue. Elle passait pour être un bagne. C'était assez vrai hors du régime encore privilégié des outilleurs. D'abord à cause de la rationalisation. Les fraiseurs, les perceurs, les tourneurs professionnels ou les manœuvres spécialisées, ce qu'on peut appeler les robots, ceux dont le travail de série est d'une désespérante monotonie, devaient fort se démener pour usiner le nombre de pièces qui leur étaient demandées comme production normale. Tout leur travail était chronométré. Chronométreur, démonstrateur, lutter contre l'ouvrier. En l'observant travailler, montre en main, le chronométreur paraissait compter loyalement le temps nécessaire à l'usinage d'une pièce. Après quoi, il fixait le temps valable pour toute la série. Si les gestes de l'ouvrier étaient gauches, trop lents, c'était au démonstrateur à lui faire sa leçon de choses. Le temps d'exécution du démonstrateur ou de l'ouvrier le plus habile, le mieux entraîné, servait de base. C'était l'application bien connue du système Taylor. Inhumain, absurde, appliqué dans le sport, il exigerait du premier venu dans le saut, la nage, le lancement du disque, qu'il parvienne au record des champions. C'était ça qui donnait à l'usine une réputation de bagne d'abord, puis le nombre excessif de gardiens en casquette qui ne cessaient de circuler dans l'usine, poussant même la porte des cabinets ou jetant un coup d'œil par-dessus les box pour s'assurer que des ouvriers accroupis n'étaient pas en train de fumer. C'était rigoureusement interdit. Même là où le risque d'incendie était inexistant. L'usine était spacieuse, une série de grands halls clairs avec de larges travées pareilles à des avenues. L'intérieur du hall n'était pas sans beauté par les proportions, la hauteur, la légèreté de la construction métallique. Les fumées montaient haut. Quand le soleil pénétrait, il jouait sur les teintes variées des bleus de travail. Le bruit des machines n'était pas trop assourdissant. On aurait pu arriver à le trouver musical. Ce qui était triste, il me semble, que c'est la tristesse fatale à la grande industrie. Ce qui était triste, c'était la foule du matin des bataillons ouvriers en marche vers l'usine, le long de ses murs, vers son portail. Qu'il pleuve, c'est triste. L'eau dégouline sur les pardessus, les parapluies, la foule des pieds dans la boue, sent le papier de journal. Elle est aussi triste que les faits divers qu'elle a lus. C'est triste encore quand il fait beau parce qu'elle va s'enfermer. Triste en hiver parce qu'il fait noir le matin quand elle entre et noir le soir quand elle sort. Triste en été de s'enfermer dans une usine de banlieue qui touche à la campagne. Le train du matin qu'il fallait prendre sentait le vieux mégot, le schnick, le café crème, le soulier mouillé. Dans le noir du wagon, je reprenais un supplément de sommeil près des ombres transies. Le train filait dans cette banlieue d'usine à produits chimiques. C'était beau de temps à autre en passant près des vitrages d'une fonderie violemment éclairée. Dans l'usine, je voyais souvent passer en casquette, en blouse grise, longue, marchant d'un pas pressé, maigre et le dos voûté, un bonhomme grisonnant, moustache pendante qui ressemblait à un vieux quincailler fiévreux. Il s'arrêtait pour discuter avec un contremaître sur l'usinage d'une pièce qu'il tenait en main. On le sentait pressé de courir plus loin. En me poussant du coude, un compagnon m'avait dit en le montrant « Tiens, regarde ça, c'est Berlier. Un des frères, je ne sais plus lequel. » À l'outillage, le travail n'était pas taylorisé, il était varié, changeant. Plus qu'à son temps d'exécution, on devait être sensible à la qualité de l'ouvrage. Montage, matrice, calibre déterminaient à leur tour la qualité de la série. Bouboule savait ce qu'il pouvait attendre de chaque compagnon et des meilleurs, et à qui, bien que tous fussent très capables, donnait le travail embarrassant ou délicat. Il existait entre lui et les compagnons un lien de camaraderie créé par l'habitude, l'estime professionnelle. Il était rare qu'un de ses outilleurs prenne son compte pour s'embaucher ailleurs. J'avais pour copain, c'était lui qui m'avait fait embaucher, un tourneur que Boubou l'estimait beaucoup, les compagnons aussi. Il n'avait que 26 ans, il paraissait plus que son âge, solide, le visage sérieux, la voix mâle avec le rude accent des gars de la Loire. Son apparence physique, ses capacités au travail disposaient en sa faveur. Le syndicat des métallurgistes était devenu un syndicat fantôme, mais certains compagnons savaient que Vacheron, mon copain, avait pris une part active à la vie du syndicat et au comité d'usine dans les dernières grandes grèves quelques années plus tôt. C'était pour eux une raison de plus de l'estimer, et parce que j'étais son copain, on m'avait accueilli à l'atelier avec plus de sympathie. Vacheron était un homme alors que je n'étais encore qu'un gamin. Il devint mon conseiller. J'admirais beaucoup qu'il pût mener notre vie qui me semblait si morne, si machinale, sans souffrir d'ennui ou de désespoir. C'était l'hiver, j'étais malheureux pour toute la saison. Vacheron avait une solidité d'âme que je n'aurais jamais. Je n'étais pas assez fort pour vivre seul. La déception avec Henriette m'avait marqué. Je ne retrouvais pas l'équilibre. Certains matins, quand mon réveil avait sonné, je ne me levais pas. Ma logeuse avait préparé un bol de café crème, elle s'inquiétait, frappait à ma porte. Je répondais n'importe quoi et je demeurais dans un demi-assoupissement à imaginer des paysages à volonté. Quoi que je fasse, quand j'avais mené un mois de vie régulière, la tristesse me rongeait. Je m'ennuyais à vouloir mourir, j'étais décidée. Mais quand j'avais signé mon arrêt en n'allant pas au travail, je guérissais. J'étais apte à nouveau, frais, dispo, si pendant 2 ou 3 jours j'avais lu et marché, tiré mes facultés de leur torpeur. Je redevenais alors capable d'aller à l'usine que je croyais avoir fui définitivement. Bouboule ne me fit jamais d'histoire. Chaque fois, je revenais pensant être congédiée. Il acceptait mon irrégularité. Je ne voulais pas mentir et m'expliquer vraiment. C'était trop difficile. À sa question « Pourquoi t'es pas venue ?» Un peu confus, je répondais sans plus de détails. Ça n'allait pas. C'était absolument vrai. Quand je lâchais pied, ce n'était jamais de bon gré, mais à bout d'une vaine résistance contre le mal qui me rongeait, le mal des adolescences difficiles. Beaucoup de jeunes gens paraissent y couper, les adultes que je connaissais me semblaient n'en avoir pas eu l'expérience. Je ne pouvais pas m'expliquer avec eux. La médecine a un mot, neurasthénie. La langue courante, un autre, le cafard. C'est très vague. L'un tient de l'autre, le dernier est moins grave. C'est un état passager. Le colonial en proie au cafard boit un coup, rentre ivre mort et le lendemain se trouve guéri. Pour d'autres, il suffit d'un coup de cinéma, d'un film qui donne pâture à leur imagination, change leurs idées. Je traînais le mien longtemps. Quand je lâchais pied, j'étais à bout, je voulais mourir. J'avais trop vu les murs de l'usine. Chaque journée recommençait les mêmes affres. Je ne payais pas le pain que je mangeais de sueur, mais de tristesse et d'ennui. Plus encore à l'usine qu'à l'école, je souffrais d'être enfermée. J'avais sur le dos un carcan pour toute la vie. Gagner mon pain en travaillant.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Le travail ne justifie rien. Le travail justifie le charron dans un village. Incontestablement, il voit les services qu'il rend. Il justifie l'artisan, le menuisier, le plombier, l'ébéniste qui voit la tête de leurs clients. Il ne justifie pas le travailleur de la grande industrie qui produit pour la guerre ou pour les besoins de luxe de la classe privilégiée, qui produit une pièce en ignorant où elle va dans l'ensemble de la machine. J'étais dans l'usine comme un chien qu'on a enfermé à l'âge de son exubérance. L'idée de me faire un sort, de gagner une situation, ne m'accrochait pas. Il faut avoir eu sérieusement et longuement la faim au ventre pour s'accommoder de seulement gagner sa vie dans une forme d'existence douloureuse et insipide. Ces années de 1919-1920, ces années de confiance et d'espérance exagérées m'avaient marqué. J'avais trop rêvé à la société future. Je ne savais plus vivre dans celle-ci. Après le doute, les illusions libertaires m'avaient quitté par arrachement. Je restais pénétré de la légitimité des aspirations révolutionnaires, mais je ne croyais plus à leur réalisation. Un rentier peut être un sceptique, un industriel être un réaliste persuadé de la nécessité absolue du salariat, de la division de la société en classes comme en nations, de l'existence nécessaire des armées permanentes et des guerres périodiques. Mais l'ouvrier, persuadé que le salarié, le travail moderne sont l'équivalent de l'esclavage antique, est atteint fortement dans sa dignité. Il ne peut accepter sa condition qu'avec une foi profonde dans le progrès social ou la révolution. Citroën. C'est avec effroi que j'entrais pour la première fois dans le hall de l'usine Citroën de Saint-Ouen. En pénétrant dans le boucan formidable, je me disais « Mon vieux, tu vas souffrir. Est-ce que tu pourras tenir dans ce vacarme ?» Je voyais les autres, d'abord les traceurs dont le travail exige calme, concentration. Debout devant de vastes marbres, ils poussaient le trusquin, un trait, s'arrêtaient pour lire sur de grandes feuilles bleues les dessins, une nouvelle cote à reporter. Je voyais ça dans le bruit comme un tour de force, en m'étonnant aussi qu'un hall si bruyant, si agité, puisse être un atelier d'outillage. Mais comment faisaient-ils les fraiseurs, les tourneurs, les rectifieurs pour ne pas perdre le nord? Les autres devaient être bâtis d'une matière spéciale, nécessaire à l'industrie. J'essaierais d'être fait comme eux. Tout l'espace, du sol à la toiture du hall, était haché, occupé, sillonné par le mouvement des machines. Des ponts roulants couraient au-dessus des établis. Au sol, dans d'étroites travées, des chariots électriques se gênaient pour circuler. Il n'y avait plus de place pour la fumée. Des presses colossales dans le fond du hall découpaient des longerons, des capots, des ailes, avec un bruit pareil à des explosions. Entre-temps, la mitraillade des marteaux-revolvers de la chaudronnerie reprenait le dessus sur le vacarme des machines. Je me répétais, « Mon pauvre vieux, est-ce que tu pourras vivre là ? Est-ce que tu seras aussi fort que les autres ?» Serrant sous mon bras mon paquet d'outils personnels joint à un casse-croûte dans un journal, ce pain qui sentirait le fer me semblait bien dur à gagner. Les équipes d'ajusteurs-outilleurs travaillaient au montage des matrices à emboutures et à découper nécessaires aux grosses presses. On gueulait dans le vacarme pour séduire le conducteur dans sa cabine en essayant d'exprimer par des gestes la détresse et l'indignation. « À nous, mon pote, c'est ton tour, tu ne penses qu'aux autres !» Dans chaque équipe, la finition de la matrice sur laquelle travaillaient une dizaine d'ajusteurs pressait. Les presses monumentales en avaient besoin pour entretenir leurs mouvements de mâchoire. Si elles s'arrêtaient, c'était la paralysie dans divers secteurs de l'usine. Les voitures d'un modèle nouveau ne sortiraient pas à la date prévue. C'était aussi une grosse perte d'argent pour Citroën. Pressants, flatteurs, excités, les chefs en blouse blanche talonnaient les chefs d'équipe, nous tenaient en haleine, nous éperonnaient, toujours cordiaux. En se dépêchant, il semblait qu'on leur rendait un service personnel. Jamais de menace. Leur insistance cordiale suffisait pour nous maintenir sous pression, rapide, fébrile, avançant la tâche autant que nous le pouvions. Pour ressaisir une meule pneumatique que l'équipe voisine nous avait chipée la veille, on se faisait plat, jovial, caressant, dans un échange hâtif de mots décisifs et de sourires pour revenir avec victorieusement. On parvenait à une vitesse de geste étonnante. Ouvrir un tiroir, l'explorer en retirant un outil, repousser un tiroir ne prenait qu'un instant. On était déjà occupé à une perceuse. On agissait comme dans les films fous où les images se suivent à une vitesse extrême. On gagnait du temps. On le perdait à attendre la meule, la perceuse, le pont roulant. Ces trous dans l'organisation d'une usine qui passait pour fonctionner à l'américaine, c'était de la fatigue pour nous. Plus encore que l'insistance des chefs, l'énorme tam-tam des machines accélérait nos gestes, tendait notre volonté d'être rapide. Le cœur essayait de s'accorder à la vitesse des claquements de courroies. Dehors, l'usine me suivait. Elle m'était entrée dedans. Dans mes rêves, j'étais machine. Toute la terre n'était qu'une immense usine. Je tournais avec un engrenage. Le temps dans le hall passait vite. Midi atteint, avec un rapide mouvement de mâchoire, en un quart d'heure, en prenant l'air de la rue, les compagnons dévoraient leur casse-croûte. Reprise jusqu'à 2h30. Au coup de sirène, les équipes partant de vider l'atelier. Au vestiaire, chacun raclant un peu de savon noir en le mêlant de sciure, se lavait en hâte, vite essuyé, vite dévêtu de ses bleus d'usine. Les compagnons étaient rapides à fuir, à fermer leur placard, à tourner le coin de la rue, la casquette ajustée sur l'oreille, à filer vers le métro avec une petite valise de carton à la main. Hâte de marcher, de changer d'air, de se délivrer de là. Une autre expérience de notre ami Georges Navel, c'est le métier de saunier. Le sel. La plaine des marais prolonge salement la mer. L'accablement des grandes chaleurs pèse sur les eaux mortes des étangs et des canaux. Heures ternes, lumière plombée, toutes les choses se confondent dans un halo d'herbes grillées. La chaleur sent la fange, le silence, l'eau lépreuse. Elle allonge les distances entre les baraques isolées aux toits de tuiles rouges et les figuiers perdus dans les herbes de l'immense étendue industrielle. Une ligne téléphonique au poteau grêle fuit longuement vers un îlot d'arbres où se cache un village de pêcheurs. Au centre du marais, une série de pyramides blanches, l'état de sel. Dans un champ blanc, des ombres humaines vont et viennent, silencieuses comme une colonne de fourmis noires. Toute la plaine du marais est dessinée à grands traits, rongée d'herbes, lignes fuyantes des canaux, fuites plates des étangs en carré. Au large, en mer, derrière les pyramides, le trait infini de la ligne d'horizon. Sur la bande de mer invisible, les cuirassés de l'escadre de la marine se découpent en gris fer. Bien que symétriquement découpé par la main de l'homme, le marais semble en état d'abandon, galeux, mangé d'herbe. La grande poigne de la nature fait sentir ses droits. Elle écrase l'œuvre à coups d'espace, de ciel et d'eau. Sa force indifférente met l'homme en face de sa fragilité. Aux compagnons énergiques qui aiment rouler leur bosse pour voir du pays au hasard des grands travaux se mêlent des repris de justice aux torses bleus de tatouages et les clochards épaves qui se laissent couler d'un chantier à l'hôpital, de l'hôpital à la prison. Au repos, une centaine de poitrails rouges, cuits, suants, brillants au soleil. Les hommes cherchent goulûment la fraîcheur de l'ombre de n'importe quoi, caisse ou wagonnet, pour s'abriter un peu pendant la pause de 5 minutes. Dans les gosiers de terre sèche coulent des rasades de bière. Des gars quittent leurs espadrilles boueuses, examinent leurs écorchures douloureuses, entourent leurs pieds de bandelettes, attentifs à préserver leurs ampoules de la morsure cuisante du sel. Avec ses nippes à mi-jambes, muscles au vent, jarrets de lutteur, gueule durcie, yeux hagards de fatigue, notre grouillement de gueux essoufflé semble sortir du Moyen-Âge ou de la cale d'un navire corsaire. Le sel est sans cesse présent, chant étincelant, eau rouge, douleur salée des écorchures, soif, fatigue, lumière blessante, âcreté de tout ce qui nous entoure. Parmi tous les gars, on se sent un gars du sel, uni aux autres par la même peine, une brute, bonne et douloureuse, unie aux autres par le même courage, à la peine. Un homme simplifié, l'homme de la tâche, l'homme du temps que dure la récolte, une masse de muscles douloureux confondus avec la brûlure du soleil, une masse de chair heureuse pendant la pause, un gosier heureux pendant une rasade de bière, l'homme de sel. À 6 heures du matin, le travail commence. Des brumes se dissipent paresseusement sur les étangs. Au loin, des mouettes picorent le marais, des vols d'oiseaux animent l'air de cris. Les gars arrivent à pied ou en bécane. Le soleil sort là-bas, derrière les fonds qui limitent les étangs. Il illumine la mer, les eaux rouges des bassins, les champs de sel, les herbes mouillées de rosée, les brumes. Le travail commence dans la fraîcheur, dans la pureté matinale, dans la féerie du soleil levant. Coincés entre la croûte de sel et le sol du bassin, les pelles debout attendent les gars qui s'amènent en sautant d'un bond le fossé en bordure du carré. Chacun dans le tas retrouve sa brouette particulière. Les forces sont fraîches, les hommes se saluent au passage à la manière bon enfant du plein air, à coups de gueule ou de tape dans le dos. Dans l'alignement des pelles, chacun retrouve sa place de la veille. En chargeant hâtivement, des saluts s'échangent entre éloignés. De proche en proche, on mâche un bout de conversation, un commencement d'histoire. Presque flanc à flanc, les brouettes sont alignées. Il est bon de supporter la fatigue, de l'oublier près d'un type gay ou d'un gros bourru sympathique. Ainsi, la brouette se trouve-t-elle rangée d'après certaines affinités entre compagnons de trait. En file indienne, sur un étroit chemin de planches, les gars mènent rapidement leur charge. Tout le corps se concentre dans l'effort, marche hâtive pour se débarrasser au plus tôt de la charge. Les yeux fixent le chemin de planches, le ruban diminue. Un coup de rein pour atteindre la plateforme de l'élévateur et la brouette est vidée d'un coup droit dans une sorte de cuvette. Une large courroie de caoutchouc supporte des charges successives. Elle élève le sel en pente douce pour le laisser retomber d'une 80 mètres en une coulée blanche qui ruisselle continuellement de l'arbre en fer croisé qui peu à peu forme une pyramide. Si l'un de nous est trop long ou maladroit en vidant la brouette, il immobilise derrière lui tous les autres avec leur fardeau plus pesant après un long parcours. C'est dur et toute la ligne se met à gueuler sauvagement. Après la décharge, le corps se détend. La brouette, bien que lourde par elle-même, ne pèse plus. À l'allure des bœufs, chacun part retrouver sa pelle, une nouvelle charge et ainsi de suite. De nouveau, la pelle dégage la croûte du sel en évitant de prendre avec elle la fange noire, le sol du marais. On piétine sur un sol mou. Devant nous, ces 1 000 millions d'étoiles blessantes comme un feu de magnésium, un tir continu de lampe à arc. La nappe de cristaux étincelle à mesure que le soleil monte. Les paupières clignent, l'œil se ménage, les lunettes noires sortent des poches. Dans le lyrisme matinal, les premières brouettes ont été légères, mais elles deviennent de plus en plus lourdes. Les forces s'épuisent. Il faut se rassembler, s'anéantir, ne pas être trop présent, trop conscient de la fatigue. Parvenir à l'automatisme. L'appel, la brouette, et des ombres à travers les lunettes sur la croûte de feu. Nous travaillons tous au même rythme. Faibles et débiles sont éliminés impitoyablement par le rythme de travail. Tous ne peuvent transformer l'enfer en travail habitable. Le repris de justice plaque le boulot, le clochard se démoralise. On le retrouve ivre, aigri. Les types trop fatigués se reposent et ceux qui ne trouvent pas la paix la cherchent dans l'ivresse, dans le sommeil à point fermé d'une sérieuse cuite. L'ensemble s'efforce de tenir. La récolte du sel n'est plus le rendez-vous d'un damné avec son enfer, mais celle d'un travailleur avec une tâche et des copains retrouvés d'année en année. Mais pour un débutant, c'est la galère. La peine du début est difficile à surmonter. Dès le matin, il faut faire appel à la résistance. Les forces s'épuisent longtemps avant la fin du jour. Le coup de sifflet d'une pause est longuement attendu. La brouette et sa pesante charge dans les bras, sous le fouet du soleil, on est comme un vieux cheval dans une côte. L'heure du déjeuner à l'ombre d'un arbre lointain met une trêve à la souffrance. Corps étendu, la tête à l'ombre, le repas expédié, les forces se réparent dans un oubli total, une douce fermentation de rêve et de bien-être. Les terrassiers. Sur le chantier de la place des Invalides, les terrassiers de l'exposition de 1937 creusaient un réseau de tranchées pour des canalisations qui rejoindraient les égouts. J'étais entré dans une forte équipe de Bretons, d'Angevins et de Picards, bien représentatifs des terrassiers de Paris, qui pour la plupart sont de souche paysanne. Leur pays les suit, leur bec demeure paysan. Ils parlent lentement. Les noms des choses dans leur bouche disposent d'une force directe d'évocation. Qu'ils disent n'importe quoi, route, vin, pain, bouteille, on touche ce qu'ils nomment. Même s'ils ne gardent pas fidèlement l'accent de leur terroir, leur pays fait écho à leurs paroles. On est avec eux sur de la terre apprivoisée, arrangée, divisée, devenue de la campagne, des champs, des prés, d'un monde où l'homme a pu vivre comme un jardinier dans son enclos. Si leur accent diffère, ces voix d'hommes qui ont appris à parler dans un jardin à blé, à pommes ou à betteraves sont toujours rassurantes. Les terrassiers de Paris allient la santé paysanne à la richesse du cœur ouvrier. Ils sont cordiaux et même fraternels. Dans la paix, leurs manières sont celles des hommes en guerre, des hommes de la même tranchée, des hommes camarades. Sur tous les chantiers du bâtiment, on devient rapidement un copain. On ne devient pas terrassier par hasard. Le métier attire les natures indépendantes. Un terrassier s'embauche sans stationner devant un portail dans une file d'humiliés. Il n'a pas à collectionner de certificats pour les présenter au bureau d'un chef de personnel. Il s'embauche sans soulever sa casquette. Quand il se présente à l'embauche, il ne dit pas « Pardon, s'il vous plaît, monsieur ». Le chef de chantier, c'est un gars comme lui, souvent plus vieux, plus gras, plus rouge de la face. C'est rare qu'il n'ait pas tenu le manche. Il a les épaules larges, il porte aussi le coltin et le largot. Les deux hommes se toisent, ils ont vite fait de se connaître. « Je viens voir si t'as de l'embauche, » dit le terrassier de sa voix la plus raide. Il ne demande pas le travail comme un mendiant en l'aumône. Hein. Il ne se courbe que pour travailler, pas devant l'homme. Mieux, il se tient droit, mieux il travaille. Si le chef a besoin de main-d'œuvre, son examen fait, il répond « « Mon gars, viens demain si tu veux, amène ta carte syndicale pour que les copains te laissent travailler. » C'est à peu près ça quand il y a du travail. Le métier attire les natures fières ou rudes. Dans beaucoup de métiers, on gagne mieux sa vie en étant moins fort et sans être plus malin. Dans cela, on est moins fier qu'un terrassier. Il y a chez ces fils de paysans un besoin d'effort, de liberté et de plein air qui leur interdit le bureau ou l'usine. C'est une race à part dans les temps modernes. Elle ne peut pas vivre enfermée. Comme la coloniale ou la marine, la terrasse attire les aventurés chez qui domine le besoin de changer d'horizon. Presque dans chaque terrassier, il y a un homme qui ne veut pas vivre isolé de la nature, vivre sans voir du pays. Autrefois, les terrassiers voyager davantage. J'admirais ceux de mon équipe, leur habileté au boisage des profondes tranchées. Ils savaient les renforcer avec des planches et des piliers pour qu'elles ne s'éboulent pas. Les parois tombaient à la verticale absolue. Ils y creusaient de petites niches pour y placer un briquet, un paquet de gauloises qu'ils délestaient de leur poche. Je remarquais dans beaucoup de leurs gestes un savoir-faire réfléchi. Un abruti, tout groupe d'hommes à ses épaves, se saisissait de sa pelle pour en faire un paravent pendant qu'il urinait dans la tranchée. C'était d'une délicatesse inattendue. À Paris, la pelle est large, la pioche est longue, plus lourde que dans le Midi. J'avais un peu d'inquiétude sur mes forces. Les terrassiers sont de plus beaux gaillards qu'en province. Ils ne se redressent pas souvent pour reprendre haleine. Je me croyais pas tout à fait assez fort pour tenir à tâche égale près d'eux. Je m'attendais à des remarques critiques chez les plus costauds. C'étaient au contraire les meilleurs bougres, les plus tendres, les plus gamins, craignant leur mère comme des égoliers de bons fils qui ne s'étaient pas encore mariés pour rester les soutiens de leur vieille. Ils sont tous pleins d'histoires qu'ils ne racontent pas. Un breton, un ancien marin qui piochait près de moi me disait « J'ai tout vu. Il me manque que 10 ans de bagne pour connaître à fond la vie. » On connaît mieux son semblable sur un chantier qu'à l'usine. Les personnalités sont plus saillantes, plus variées. Les terrassiers ont la vie riche en expérience. Beaucoup ont voyagé. Ils sont aussi assez nombreux ceux qui sortent des bagnes militaires, réfractaires par principe ou par raideur de caractère. Leur corporation, c'est un peu le corps franc des bataillons du monde du travail. Ils n'ont pas la bosse de la subordination. Sur le chantier des Invalides. Des coups de sifflet dominent la confusion des bruits. Au commandement d'un grand gaillard, sifflet en bouche, des terrassiers dans une tranchée tirent par secousses tous ensemble pour dérouler la bobine d'un câble électrique qui va s'étirant, lourd, serpent noir et terreux. Bien que le gaillard qui commande soit placide, large d'épaules et rouge de visage, ses coups de sifflet ont un ton râleur, critique et impatient. Il semble répéter sans cesse « Allons, voyons là-bas, tirez, bon Dieu, je vous vois !» Les coups de sifflet à l'accent de reproche portent très loin leur ohis énervé. Tous les gars du chantier, ce que ne concerne pas l'avance du câble, se sentent piqués par l'infatigable moustique du sifflet, ce qui s'exprime par « Va-t-il bientôt la fermer, le grand zouave ? Il nous casse les oreilles avec son tutu. » L'air du chantier est engrossé de tout le mouvement de Paris. Bêlement, grouillement, ronflement, poussière épaisse des bruits de tout le troupeau d'autos qui s'affole dans une plaine de maisons à n'en plus finir. Les dernières parcelles d'air immobile sont absorbées par la charge des machines du chantier, compresseuses, bétonneuses, défonceuses, scies mécaniques, mâches et mastiques l'air qui n'en peut plus. Les hommes paraissent n'avoir pas leur plénitude de chair et d'os, être des demi-ombres, et dans le vacarme, leurs menus outils n'ont pas de voix particulière. Tous leurs mouvements semblent silencieux. Le raclement de la truelle dans une auge de bois, l'éclatement d'une brique au choc de la martelette ne se font entendre que de très près. Tous les bruits appartiennent aux machines, les grands outils que dominent aigrement les coups de sifflet aigus du grand diable. Bruit, odeur, tout est mouvement. L'haleine de Paris, qui sent la gueule de métro, le celluloïde et le peigne brûlé, est assainie par les odeurs de chantier, la bonne odeur du bâtiment, le plâtre, le sable et la chaux. Odeurs robustes comme les gars, et même les jours de pluie, les briques rouges contiennent du soleil. Et le sable est campagne et nature, lit de rivière et tranquillité. C'est à peine si on se sent exister dans ce vacarme. Même avec une pioche en main, on se sent peu soi-même. C'est le soir, dans le brusque silence de la banlieue, sitôt les lumières de l'autobus et d'un bistrot quitté, qu'on retrouvera son âme humaine. Là, on est le boulot, les deux bras d'une armée de bras, avec le sentiment d'avoir les reins qu'il faut pour la tâche qu'on remplit et le courage nécessaire. Il y a des choses humaines dans la tâche. Au lieu de vacarme, le sable parle doucement du large. Sans y prêter attention, on le sait. La terre de Paris, sur l'appel du terrassier breton, évoque des souvenirs agricoles. Et toute la terre cesse de sembler appartenir partout, rien qu'à l'affolement furieux des hommes et des machines. On supporte mieux le bruit quand on sait qu'il y a du calme ailleurs.
Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gondin.
il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs.
Oui, donc je m'emballe, je crois que je lis trop, mais tout est à lire en fait dans toute cette, ton expérience professionnelle.
C'est assez, assez prenant.
C'est une belle écriture.
On sent que c'est du vécu.
Ah, tout a été vécu. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, mais après, il va essayer de s'en sortir de cette usine, de ce vacarme. Donc, il part faire des métiers à l'air. Donc, il part dans le sud, il va ramasser la lavande, il va faire les vendanges, il va cueillir les cerises, il va cueillir des pêches. Il y a des pages superbes sur la nature quand il travaille. Mais il y a un moment, il faut qu'il ait une vie plus stable. Donc, il accepte le retour à l'usine. Et je vais vous juste lire quelques lignes de son retour à l'usine. Et après, j'arrête là. Et ça sera à vous de lire tout le reste. Malgré la fatigue des fins de journée, l'usine me semblait appartenir déjà à un monde neuf, à un monde plus gai. L'usine, un jour, serait à nous. Nous ne travaillerions plus pour la guerre. Je me sentais liée aux hommes qui m'entouraient par une communauté d'espoir. Ils étaient sortis de leur indifférence, de leur passivité. Comme jamais, je me sentais enfin avec des semblables, des ouvriers devenus conscients. Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique. Moralement, j'étais d'accord avec ma classe. Voilà, donc je ne vous en lis pas plus, parce que voilà, mais enfin franchement, je vous conseille fortement cette
et
lecture.
C'est vrai que c'est totalement dans l'actualité avec les rendez-vous de l'histoire.
Eh bien oui, bien sûr, ben, ouais. J'ai fait un effort quand même. Hein.
Donc, du coup, je trouve que le texte est quand même particulièrement bien choisi. Je ne connaissais pas du tout Georges Navel, mais il a une façon de parler du travail, de parler de la condition ouvrière qui est assez, assez parlante et assez prenante. Quand est-ce que ça a été publié ?
Alors, il l'a publié au lendemain de la guerre, en 1945, et dès sa parution, le livre a eu un réel succès. Il a même été en lice pour le Goncourt de 1945.
Ah, d'accord.
Voilà. Et Michel Ragon, c'est 20 ans plus tard, qui écrira que Travaux est très certainement l'un des plus beaux livres, l'un des plus émouvants de la littérature ouvrière. Et je pourrais juste achever en copiant ce que disait Paul Giraldi dans sa préface. « Je vous ai présenté Georges Navel, ouvrier des villes et des champs, écrivain, poète français. »
Parfait, ça résume tout. Je suis étonné que ce livre-là ne soit pas autant connu qu'il le mérite.
Alors certains le connaissent, oui, je pense qu'il est très utilisé.
Autant, voilà, je ne le connaissais pas.
Voilà. Non, mais je pense que c'est pour. Il est connu dans le. Enfin, peut-être dans le monde du travail, des travailleurs, des syndicats et de tout. Voilà, je pense plutôt, oui. Voilà. Je vais rappeler le titre.
Alors, tu nous rappelles le titre de l'ouvrage, oui.
Travaux de Georges Navel. Vous pouvez le trouver en édition poche folio. Ça a été réédité en janvier 2020, donc c'est pas si vieux.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, pour cette superbe lecture. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Catherine, un avis sur la prochaine lecture ?
Pour novembre ?
Oui, pour novembre.
C'est la Sainte-Catherine où tout prend racine. Alors, on pourrait lire un texte sur les arbres ou alors une pièce de Racine.
Ben voyons, pourquoi pas.
Bon, ben tu le sauras plus tard.
Allez, au revoir tout le monde.
Au revoir.